un burn-out, un médecin qui me conseille de me mettre au vert et un océanologue qui me conseille de me retrouver. Tous ces événements qui arrivent successivement, de façon rapprochée, je le prends comme un signe. Je suis bougon, je suis ours, il est peut-être temps de me remettre en question. Pour changer, pour être plus heureux. Petit à petit, je me débarrasse du superflu pour m'en tenir à l'essentiel. Une idée m'est venue pendant que j'écoutais François Sarano parler avec passion. Pour accompagner ma mise au vert, ordonnée par le médecin, je vais couper mon portable. Je ne serai plus perturbé par des appels. Et je parlerai aux gens, aux vrais gens, et non aux ersatz d'humains que nous impose ce trop-plein de technologies. J'allumerai mon mobile quand c'est moi qui le déciderai. Il s'agit de retisser les liens avec les autres, comme le dit l'océanologue.
Nous ne sommes que les liens que nous tissons avec les autres. Et les divertissements nous coupent de ces liens et nous appauvrissent de plus en plus. Plus nous nous perdons dans ces divertissements, plus nous nous étiolons parce que plus nous coupons les liens qui nous font exister. Nous n'existons que par les liens, les interdépendances que nous avons avec les autres.
Les réseaux sociaux, les écrans...
Ça veut dire qu'on se construit par rapport à une interaction avec des réseaux sociaux.
Et c'est une construction, on le veut ou non, c'est une construction. C'est un monde qui est son monde propre, hein, mais qui me paraît infiniment moins riche, apaisant et structurant que les relations réelles, les yeux dans les yeux et physiques. L'idée première, avant toute chose, c'est de se retrouver avec les autres pour se retrouver soi et être bien, apaisé. Et je pense qu'on est apaisé lorsque tout d'un coup, on retrouve, on reconstruit ces liens réels avec les autres, humains. Après ça, lorsqu'on a reconstruit ces liens réels avec les autres humains, on a pris le temps de le faire en jetant sa télévision et son smartphone, on a encore beaucoup de temps. Donc il faut retrouver les liens avec nos autres colocataires vivants, les arbres, les oiseaux, l'herbe, les papillons, les poissons,
alors
les cachalots,
ce que vous appelez se reconnecter.
Se reconnecter au vivant. Mais on peut pas, il faut le faire dans cet ordre-là. On ne peut pas se reconnecter si on n'est pas bien soi-même au sein de la famille, au sein de ses amis, au sein de son travail, de sa société. Et je vais revenir quand même sur se reconnecter. Pour se reconnecter, c'est à la fois très difficile et très simple. Chaque matin, dire bonjour, bonjour, un vrai bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire bonjour ? Je te souhaite une belle journée. Je pense à que je te souhaite, Jean-Baptiste, je te souhaite une belle journée. Et quand je dis ça, je pense à ce que je dis et je suis en relation avec toi. Et ce bonjour réel, ressenti, permet de retisser un lien, un vrai lien, et pas un lien par Internet.
Tant qu'on n'a pas fait ça, c'est pour se retrouver.
Oui,
c'est la première.
Tant qu'on n'a pas fait ça, on n'est pas à même de recevoir les oiseaux ou les tilleuls ou les saules pleureurs ou l'herbe ou les autres créatures qui sont bien plus difficiles à recevoir que de recevoir les paroles apaisantes ou les paroles des gens qui sont autour de nous. Oui. Hein? Donc, il faut se retrouver et après, on peut se reconnecter. Et on prend le temps de le faire, de marcher dans l'herbe mouillée, de regarder le monde autour, de prêter attention.
Je suis d'accord avec vous, mais c'est ça qui m'a fait tilter, parce que vous dites de marcher dans l'herbe mouillée, etc. Les gens qui habitent à Paris, et quels conseils vous pouvez leur donner ? C'est gris, Paris. Tous les Parisiens qui sont condamnés à ne pas se reconnecter.
Il y a des parcs à Paris, mais je reconnais que c'est bien difficile, bien très très difficile. C'est pour ça qu'il y a un long chemin à parcourir pour qu'il y ait à nouveau d'autres créatures vivantes que des humains dans du béton pour construire une ville. Oui, 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 c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué de se reconnecter. Bref, il faut faire ce qu'on peut faire avec ce qu'on a autour, c'est important. Je pense quand même qu'à Paris, il y a le moyen de regarder un peu les quelques oiseaux, les arbres qui sont là, et simplement penser que ce sont d'autres êtres vivants permet déjà de faire le premier pas. Et quand on a effectivement la chance de pouvoir sortir de cette incarcération bétonale, eh bien, il ne faut pas perdre l'occasion. Et il est facile de la perdre parce que très aisément, plutôt que de sortir, de marcher, de respirer, de regarder autour de soi, ça vaut la peine. Eh bien, et ne pas s'enfermer, encore une fois, dans ces activités factices que sont les jeux vidéo.
Les réseaux sociaux, etc.
Réseaux sociaux. Il s'agit
Facebook,
de savoir...
Instagram, c'est-à-dire quand voilà, on voit les gens dans le métro, les yeux rivés sur leur portable, en train d'envoyer des messages...
Voilà. Après ça, je ne jugerai pas de la richesse des messages. Il peut y avoir des messages très riches, mais vraisemblablement, beaucoup ne sont pas des messages. Ils sont simplement signaux.
Les médecins parlent de plus en plus de dépression. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport direct entre cette dépression et le manque de nature dans nos vies quotidiennes ?
Je pense que la nature est apaisante. Et je pense que le monde carcéral du béton, la pression du travail joue un rôle prépondérant sur notre esprit dépressif. Il y a aussi tout ce qu'on entend à la radio, les nouvelles sont toujours mauvaises, enfin bref, c'est très anxiogène. Se retrouver en paix dans la nature, je ne sais pas, en forêt, en mer, en montagne, on marche, on est à un rythme vrai. Un rythme juste, le rythme de la marche, le rythme de la nage. Nos sens ne sont pas brouillés. On peut prêter attention, j'insiste sur le mot prêter attention, à ce qui nous entoure. Regarder, et pas simplement voir. Je vois, mais est-ce que je regarde véritablement ? Est-ce que je fais attention ? Et quand tout d'un coup on fait attention... On se relie à ceux qui sont autour de nous, on les fait exister, on leur donne existence et on est à nouveau riche de leur présence. Alors que sinon, on serait passé à côté d'eux sans les avoir vus et en ayant même remarqué qu'ils étaient là.
Donc il faut prêter attention pour s'émerveiller, mais j'ai l'impression que ça s'apprend, prêter attention, parce que quand je vais me baigner au bord de la Manche, il n'y a pas de quoi s'émerveiller. Moi, ce que je vois, c'est des algues. Des méduses, des poissons, elle est où la magie ?
Vous savez ce que c'est qu'une algue ? Et c'est génial, une algue. Une algue, si j'avais les atouts d'une algue, ce serait extraordinaire. Rien que, avec l'énergie solaire, elle arrive à faire de la matière vivante. Sans les algues, nous ne serions pas là. Elle libère l'oxygène qui nous permet de respirer. Les algues, c'est extraordinaire. Elle vit dans un milieu...
Plus je l'écoute, plus il refait naître en moi ces rêves d'enfant que j'avais oubliés, mais qui étaient toujours tapis dans un coin de mon être. L'espace de quelques instants, ce n'est plus l'adulte qui l'écoute. C'est l'enfant que j'étais. L'enfant qui, tous les dimanches, devant la télévision, rêve d'aventure sur la Calypso.
Vous pouvez me dire où ils sont, la Calypso et l'hélicoptère et... La soucoupe plongeante.
Dans nos rêves, dans notre mémoire, ils sont encore en train de plonger à 200 mètres de profondeur, le long d'un tombant corallien. Ils sont en train de voler au-dessus des récifs. Ils sont en train de naviguer en plein Pacifique. Je vois encore la proue de Calypso qui retourne la vague comme une charrue et qui fait jaillir des dizaines de poissons volants qui planent pendant quelques secondes au-dessus du bleu intense de l'océan Pacifique. Ils sont là, les vrais Calypso, soucoupe plongeante, Denise, Félix, hélicoptère, parce que là, ils sont vivants. Et c'est comme ça qu'il faut les garder, en souvenir.
Les gens ont du mal à apprendre à voir, à s'émerveiller.
C'est vrai que notre société ne nous amène pas à nous émerveiller. À l'école, on ne nous apprend pas à nous émerveiller. Les programmes sont lourds, les programmes sont denses.
Je suis d'accord.
Mais on n'a pas beaucoup le temps de regarder le soleil qui joue dans les nuages et qui fait cette lumière orangée merveilleuse.
Tout ce qu'on regarde quand on est gamin, en fait.
Se regarde quand on est gamin, ce qu'on voit quand on est gamin, ce qu'on regarde, ce dont on s'émerveille.
Oui.
Et je pense qu'effectivement, il devrait y avoir plus de temps consacré à rien faire.
Ben oui,
et comme... à regarder, à ne pas être dans la rentabilité permanente. Et cette oppression de la rentabilité ne conduit pas au bien-être. Nous avons peur de regarder notre questionnement existentiel en face. Nous avons besoin de nous étourdir parfois, mais cet étourdissement aujourd'hui est tel que nous nous sommes totalement perdus.
On s'est perdu. Mais j'ai l'impression que grandir, devenir adulte, c'est perdre son émerveillement d'enfant et de devoir le retrouver. C'est ça. On passe notre vie à retrouver notre émerveillement d'enfant. Vous l'avez peut-être jamais perdu.
Oui, et nécessairement, adulte, c'est aussi accepter les responsabilités d'une famille. Par conséquent, l'insouciance enfantine, on est bien obligé de la poser sur la table à côté. Oui. Et...
Mais ça ne vous empêche pas de la retrouver quand vous plongez. À chaque fois, vous plongez.
Oui, même tous les matins, en disant bonjour, je regarde le ciel, je regarde cet arbre de Judée qui est juste en face de moi, que j'aime beaucoup, qui est un vieil arbre, oula, qui a perdu sa grosse branche l'année dernière, qui est cassé en deux, mais qui est là et qui m'émerveille. Et je me dis, lui aussi, c'est une créature vivante. Elle est bien différente de moi, mais elle est là, elle vit. Elle est aussi évoluée que moi. Elle a 3,5 milliards d'années d'évolution derrière elle. Incroyable. Et puis il y a ces oiseaux qui se posent sur ses branches. Là, voilà la maison charbonnière. Ah, voilà un tarin des aulnes. Un chardonneret. Un pinson des arbres. Des pinsons du nord. On est en ce moment à l'époque où ils sont là. Ils ne vont pas rester très longtemps. Et puis, au printemps, on va voir d'autres oiseaux migrateurs qui passent. Ah, on les reconnaît. On prête attention à leur arrivée et à leur départ. Et puis, il va y avoir bientôt les chauves-souris. Les chauves-souris qui sont des animaux incroyables, merveilleux, qu'on prend le temps, le soir, de regarder. Un petit quart d'heure à les regarder tourner juste dans le contre-jour de la fin.
Parce que vous n'habitez pas Paris, c'est ça ?
Parce que je n'habite pas Paris. J'ai la chance d'habiter en province, dans une petite ville qui s'appelle Valence et qui est au bord d'un des beaux endroits du monde, qui est le Vercors, avec de belles forêts, des forêts de hêtres incroyables.
C'est marrant parce que quand vous me décrivez l'arbre qui est devant chez vous, avec toute la vie qu'il y a autour, vous le décrivez comme si on y était. C'est marrant.
Je le vois, je le vis.
Voilà.
Je ferme les yeux, je le vis.
Apprendre à s'émerveiller, oui, ça se fait quand même avec l'entraînement, j'ai l'impression.
Oui, l'entraînement, je ne sais pas si c'est un entraînement, c'est l'émerveillement qui vous entraîne. Ce n'est pas un entraînement à l'émerveillement.
Vous moquez de moi.
Non, je ne me moque pas de vous. Regardez là par la fenêtre, ces nuages qui filent poussés par le vent du nord. Regardez comme le soleil joue, la lumière. Quel est le tableau du plus grand maître qui rendra ça difficile, hein ? Quel est le bijou dans lequel la lumière jouera aussi bien, toujours changeante, toujours éphémère. Je vous fais ce cadeau.
Impeignable.
Je vous fais ce cadeau. Il est éphémère, c'est donc le plus beau.
Et je le retrouve une fois adulte. Je l'avais perdu. Quand j'étais petit, je pouvais...
Oui, on y reconnaissait des formes.
Ben voilà.
On avait des monstres extraordinaires. On avait des amis avec des gros yeux et un gros nez.
On avait des activités qui étaient... considérées maintenant comme inutiles, alors qu'elles n'étaient pas inutiles.
Par conséquent, elles sont essentielles. Il n'y a que les activités inutiles qui sont essentielles. Quand on est avec des proches qui sont proches de la fin, quand on est avec eux, il n'y a plus que de l'inutile. Essentiel, indispensable. Il n'y a rien de plus grand et rien de plus important.
Une caresse, par exemple.
Exactement. Et pourtant... en termes de rentabilité, comme on jugerait ça dans la société, c'est rien. C'est rien du tout. C'est même... Mais vous perdez votre... Mais qu'est-ce que vous faites là ?
Ouais.
Il n'y a que ça qui compte. quand on est avec un enfant qui parle à peine, qui joue à des jeux qui sont dérisoires, c'est totalement inutile. Mais il faut vivre pour ça.
Trop de prise de conscience en écoutant cet homme, trop de repères malsains bousculés. Tant d'ignorance en moi que je n'avais jamais décelé. L'utilité de mon journal intime est de plus en plus évidente, voire criante. En me remémorant les propos libérateurs de François Sarano, je les couche sur le papier et vois jour après jour le changement opéré en moi. La guérison est là, tout autour de moi. Il suffisait d'être attentif au monde qui m'entoure et dire que je l'ai ignoré pendant tant d'années.